Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est encore chez lui pour quelques jours à l'Opéra de Paris, où il nous reçoit ce matin à 8 jours de son concert d'adieu qui sera diffusé en direct sur France Musique. Bonjour Philippe Jordan.
Bonjour.
Vous avez encore quelques cartons à faire ?
Non, pas du tout. C'était fait. J'ai fait mon déménagement le dernier été, comme ma saison commençait à Vienne déjà septembre dernier. Alors tout est fait. Il y a seulement un tableau dans mon bureau qui est la photo de mon père. Alors il fallait que je le laisse jusqu'au bout.
Et votre père qui veillait encore sur votre
bien
bureau.
Bien sûr, c'est quelque chose de sentimental. Il était tellement lié à cette maison et comme ça, c'est mon ange gardien.
Votre père Armin Jordan, grand chef d'orchestre. Les cartons sont faits. Votre cœur est-il resté un peu à Paris?
Mais bien sûr, il restera toujours à Paris, parce que c'est une partie de vie qu'on a passée. Ça fait 12 ans, c'est 12 belles saisons, avec plein de choses, plein d'émotions, plein de spectacles, des concerts, des tournées, des disques qu'on a fait. C'est pas un travail ce qu'on fait, c'est une partie de vie qu'on a vécu ici. Cette relation, ce mariage avec l'orchestre, surtout avec l'orchestre, bien sûr, avec la maison de l'opéra, bien sûr, mais évidemment l'orchestre était le lien le plus proche. C'était un mariage, c'est un long voyage qu'on a passé ensemble, plein d'aventures qui nous reste lié. Et quand je retourne ici, je reconnais mon instrument. Hier, on a commencé la symphonie de Faust Liszt et on s'est pas vu depuis le Ring. Ça fait quand même 8 mois qu'on s'est plus vu. Et voilà, on se connaît, on sait comment agir ensemble. Je sais ce que je dois montrer, comment les séduire, comment ils réagissent, ce que je peux prendre aussi de ce qu'il offre. On parle un langage ensemble, un langage musical et aussi bien sûr des liens humains très très forts, liens amicaux, complices très très forts.
Quand vous en parlez, Philippe Jordan, on a presque l'impression que vous parlez d'un couple.
On fait un peu vieux couple. C'est aussi la raison pourquoi il faut partir. C'est la décision que j'ai prise il y a 3 ans de pas encore prolonger. Autant que je pourrais rester dans cette maison et dans cette belle ville pour le reste de ma vie. Mais c'est une décision assez importante pour moi-même. On cherche des nouveaux défis, aussi des nouvelles évolutions, mais aussi pour l'orchestre, pour la maison, pour le public. On a besoin des nouveaux stimulations et c'était important de faire cette décision avant de commencer à se répéter à tant de choses.
Alors ce concert d'adieu dans 8 jours, le 2 juillet, en direct sur France Musique, comment vous le voyez, comment vous l'avez envisagé?
Oui, c'était la grande question, comment le faire? Alors, c'était clair qu'on jouera à Bastille, ce qui a resté parce que c'est notre maison, et pas à la Philharmonie, et c'était important qu'on aura le cœur, bien sûr, qu'il y a aussi une relation extrêmement forte avec tout ce qu'on a fait, et les deux équipes de l'orchestre. Alors c'est pour ça qu'on voulait faire un grand concert, un peu plus long que normalement. Comme ça, on a 2 grandes œuvres. Et il y avait bien sûr la question, qu'est-ce qu'on va jouer? C'est clair, parce que moi, je suis pas le type de faire un gala d'opéra avec les arias qu'on joue et le Brindisi de la Traviata. Il faut avoir une idée comment. Et c'est quelque chose de symbolique pour moi et pour le public et la maison. Alors évidemment, quelque part, je voulais terminé avec de l'opéra et comme Wagner était au centre quelque part de notre travail pendant toutes ces années, le 3e acte de Parsifal est symbolique quelque part parce que c'est un œuvre finale de toute façon, déjà de Wagner, c'est la fin du monde, mais la fin de Parsifal avec l'enchantement du Vendredi Saint et le final donne tellement d'espoir et de beauté pour de lumière et ouvre des nouvelles portes pour le futur. Et c'est important pour cette maison, c'est de dire voilà, c'est la fin, c'est quelque chose de presque, si je ne veux pas exagérer, mais testamentaire, hein, mais aussi de dire, voilà, on part, et on part dans un nouveau futur plein de lumière et de nouvelles opportunités. Et là, Parsifal est symbolique. Et c'est pour ça que je voulais avoir dans la première partie quelque chose de plus symphonique, parce qu'on a quand même joué pas mal de symphoniques, qui étaient importants pour notre travail et pour notre relation, aussi avec le public. Et je voyais toujours entre la symphonie de Faust, de Liszt et Parsifal une liaison quelque part.
Avec un plateau de rêve, ce Parsifal, cet acte 3, Ève Maud Hubo, Peter Mattei, René Pape et Andreas Schager.
Oui. C'était aussi important parce que c'était aussi des chanteurs qui étaient très très liés à notre travail pendant les dernières années. C'est aussi une sorte de famille, et surtout Ève Maud Hubo, je suis extrêmement touché parce qu'elle chante que deux mots dans le troisième acte, et elle est prête à le faire. Alors c'est du luxe. Hein.
Andreas Schager, avec lequel vous avez aussi enregistré Siegfried, c'était à la fin de l'année dernière, la tétralogie, le Ring pour la radio. D'ailleurs, ce premier volet était enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique. Je vous propose d'en écouter un extrait. L'air de Siegfried à l'acte 1 de l'opéra du même nom de Richard Wagner. Andreas Schager, l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par notre invité ce matin, Philippe Jordan. Il fait ses adieux à l'orchestre de l'Opéra de Paris le 2 juillet en direct sur France Musique. Plus de 6 mois après, c'est un moment qui a marqué votre lien entre cette maison, cet orchestre et vous?
Bien sûr, cette tétralogie était quelque chose de unique pour beaucoup de raisons, parce que déjà on avait une distribution fabuleuse, et la tétralogie pendant les années c'était un projet central. entre moi et l'orchestre. Mais bien sûr, la période Covid qui était très très dure pour l'opéra et aussi de pas pouvoir travailler et aussi pas pouvoir entretenir ce bel instrument, ce qui est notre orchestre, c'était vital. Et là, il faut quand même remercier tout d'abord Alexander Neff qui a tout fait pour que
le directeur de l'Opéra de Paris,
voilà notre nouveau patron, et qui a tout fait pour qu'on garde notre mission malgré les temps très très difficiles. C'est-à-dire, hein, on a essayé quand même de sauver cette tétralogie pour une version concert, et puis ça marchait plus non plus. Alors on l'a sauvé quand même pour la radio, et là aussi un grand merci encore à Radio France qui nous a beaucoup soutenus, parce que c'était vraiment un projet commun qu'on a fait. Il y a des avantages aussi, parce qu'on a vraiment joué pour un très très grand public, et c'était une occasion qu'on n'a pas normalement. C'était uniquement vraiment pour la radio, pour un grand public.
Pas de réponse définitive pour l'instant.
Malheureusement, non.
Ouais. Philippe Jordan, sur cet extrait qu'on vient d'écouter, on a entendu l'alto de Laurent Vernet, l'alto solo de l'orchestre, Foot Wagner, comme vous d'ailleurs, chaque été, il jouait dans l'orchestre du Festival de Bayreuth, que vous allez encore diriger, normalement, cet été. La disparition brutale, accidentelle de Laurent Vernet vous a bouleversé, vous lui avez rendu un vibrant hommage, vous disiez que c'était même l'âme de l'orchestre.
Absolument, je connaissais Laurent depuis mes débuts, quand j'ai fait Ariane à Naxos en 2004, où il jouait l'alto solo, et c'était quelqu'un d'extrêmement passionné pour la musique, mais aussi une perle de être humain qui était toujours pour l'ensemble, qui était là avec les gens, et qui mettait son enthousiasme autour de lui et sa passion aussi pour Strauss, Wagner, bien sûr. Mais c'était quelqu'un qui était un grand fidèle pour moi et pour l'orchestre, pour notre travail, et ce décès brutal qu'on n'attendait pas du tout, c'est il nous laisse un vide dans cet orchestre, dans l'orchestre. Mais c'est bizarre que quand même j'arrive ici pour travailler, il voulait jouer les deux parties du programme, il était à fond pour le faire, et bizarrement il est pas là, mais il est là, ouais, quelque part on le sent, ouais, on parle pas maintenant de lui, mais son esprit reste là. Alors il est quelque part, il a transmis quelque chose à nous tous, à moi inclus, qui va rester pour toujours.
Bayreuth, vous y serez cet été pour les maîtres chanteurs de Nuremberg dans la mise en scène de Barikowski, 6 représentations du 26 juillet au 24 août, diffusion sur France Musique le 28 juillet. En tout cas, à l'heure où l'on parle, c'est pas encore tout à fait sûr et certain, Philippe Jordan?
Oui, c'est un peu compliqué, bien sûr, s'il y a toujours les restrictions sanitaires, etc. Alors, on espère de jouer, on va commencer à répéter, tout est prévu, et heureusement on voit partout, à Salzbourg, chez nous à Vienne, ici à Paris, à Munich, hein, ce qui est aussi en Bavière, on joue partout. Alors normalement, espérons qu'on va jouer, et évidemment avec des restrictions, par exemple le chœur qui chantera pas sur le plateau, ça c'était une décision qui était prise assez tôt, ça peut-être encore changer, mais j'ai très peu d'espoir, parce que voilà, ce qui reste important, c'est l'orchestre en fosse à Bayreuth. Si on n'a plus ça, c'est fini. Alors là, c'était le compromis qui était fait là-bas, et espérons qu'on puisse quand même jouer, et pour quand même un grand nombre de personnes.
Dans une partition qui vous est particulièrement chère, les maîtres chanteurs de Nuremberg, que vous avez d'ailleurs dirigé aussi ici à Paris.
Oui, c'était peut-être la plus heureuse production qu'on a eue. J'ai un souvenir particulier pour les maîtres chanteurs. Pas seulement parce que c'est une œuvre plein de joie, plein de musique, plein de comédie, ouais, c'est ce qui est rare chez Wagner très souvent, mais c'était peut-être la plus belle mise en scène que j'ai pu avoir pendant mon travail ici, et avec un plateau fabuleux. C'était quelque chose de très très fort.
Rendez-vous le 28 juillet sur France Musique pour ces maîtres chanteurs de Nuremberg. À Bayreuth, Philippe Jordan, Barikowski à la mise en scène. Vous êtes en ce moment Dans Macbeth de Verdi, cette fois dans votre nouvelle maison, l'Opéra de Vienne, il y a d'ailleurs une représentation ce soir, on oppose souvent Wagner et Verdi, on vous connaît un peu moins dans Verdi. C'est un compositeur d'opéra que vous avez mis plus de temps à appréhender ou pas ?
Je dirais même pas, parce que peut-être comme adolescent, hein, j'étais plutôt dans le monde Wagner, Strauss, Mozart, mais comme chef d'orchestre, j'étais assez tôt dans Verdi. Je crois j'ai commencé avec la Traviata, puis j'ai fait Falstaff, Othello. Alors je crois que c'est mon 8e opéra de Verdi quand même, et moins fréquent, ouais, ça on peut dire. C'est pas tous les ans que je dirige un grand Verdi, et c'est pour ça c'était très important cette année à Vienne. Comme carte visite que je dirigerai tous les grands compositeurs d'opéra, c'est-à-dire Puccini au début avec Madame Butterfly, puis c'était Chevalier à la Rose, Strauss, puis c'était Les Noces de Figaro, Mozart, puis Parsifal, Wagner, et à la fin Macbeth de Verdi, en plus un opéra que j'ai jamais fait. Alors c'était très important de le faire, et je dois dire j'ai vraiment sous-estimé cet opéra, parce que j'ai cru que c'était un opéra assez d'une période, la première période de Verdi, ce qui est pas du tout le cas, parce qu'on joue la deuxième version qui est au plein milieu de Verdi, et je trouve un plaisir avec cet opéra, avec l'orchestration, avec les voix, hein. On a Luca Salci, on a Anna Netrebko, Roberto Tagliavini, alors les meilleures voix pour ça, une mise en scène de Barry Kosky qui vient de Zurich, mais qui est très minimaliste et concentré sur le sujet de Shakespeare, hein. On sent vraiment Shakespeare plus que Verdi, c'est très noir, mais c'est très très fort, et chaque spectacle, je trouve un plaisir énorme de le faire.
Puis Burdon, allez, un petit cadeau ce matin, c'était en 2017 ici à Bastille, la toute fin de Don Carlos, avec deux grandes voix aussi, Sonia Yoncheva et Jonas Kaufmann.
Thank you.
Les applaudissements du public de l'Opéra de Paris en 2017, le final de Don Carlos de Verdi avec Jonas Kaufmann, Sonia Yoncheva, le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Philippe Jordan, notre invité ce matin. Le concert d'adieu avec l'orchestre, c'est dans 8 jours, le 2 juillet, en direct sur France Musique. On vient d'entendre ici les applaudissements du public. C'est aussi un concert pour dire adieu au public parisien, Philippe Jordan.
Bien sûr, le public me manque, ou m'a manqué énormément. Ça, c'était mon dernier spectacle ici, c'était quand même en décembre 2019 avec, je crois, le troisième spectacle du Prince Igor. Et puis, j'ai plus vu le public, sauf pour des concerts à Garnier, un concert, heureusement, à la Philharmonie. Bien sûr, il y avait la jauge assez forte et c'était compliqué. Déjà de faire le ring sans public, c'était triste, hein, public live. Là, on se rend compte aussi à Vienne, tous les streamings qu'on fait. Hein, on joue, et heureusement pour un grand public, par télévision et streaming. Mais on a compris encore plus maintenant que la raison pourquoi on joue, c'est le public. La seule raison. Hein, c'est pas que la musique. Hein, la musique est là pour réunir des gens. Et j'ai eu une relation extrêmement heureuse avec ce public parisien qui est plein d'enthousiasme, d'émotion, très très chaleureux. Il faut dire qu'il va me manquer énormément et je suis trop content, trop heureux de les revoir pour une dernière fois.
Vous évoquiez l'Opéra de Vienne, votre nouvelle maison. Vous avez fait vos adieux aussi à l'Orchestre Symphonique de Vienne. Cet Opéra de Vienne. Quelles sont vos envies, vos désirs, vos intentions pour les prochaines saisons artistiquement?
Oui, c'est un grand projet pour nous, l'Opéra de Vienne. Bien sûr, c'est une maison de répertoire et une maison qui joue énormément de spectacles. Je crois qu'on a au moins 45 à 50 titres. Hein. C'est plus que le double qu'on joue ici à Paris tous les soirs. Je crois, pour nous, c'est important de se positionner dans cette maison qui a cette mission aussi pour un grand public. Comment se positionner dans notre temps pour rendre la plus grande qualité avec cette situation, c'est-à-dire comme on joue tous les soirs, on a beaucoup moins de répétitions comme ici à Paris, tout est répété. Il y a des lectures d'orchestre, des italiennes, des scènes orchestres, toujours une générale. Alors ça, à Vienne, ça existe que pour les nouvelles productions, et puis de temps en temps une scène orchestre pour je sais pas, Arabella ou là j'ai fait Chevalier à la Rose sans une répétition d'orchestre. Alors ça, on tombe on se jette dans la piscine, il faut nager, hein. C'est autre chose.
Mais ça veut dire que le niveau est meilleur là-bas ou ça veut dire que les musiciens de Paris sont plus aguerris? On peut le prendre dans un sens ou dans l'autre.
On peut pas le comparer parce que, disons comme ça, à Paris, le grand avantage, c'est que chaque spectacle est si bien répété, on peut maintenir toujours un niveau très haut. À Vienne, le grand avantage de cet orchestre extraordinaire, comme je peux le vivre maintenant ces jours-là, c'est d'une flexibilité énorme qui est capable de jouer un Chevalier à la Rose ou une tétralogie sans répétition d'orchestre. Bien sûr, la question, je dis le défi dans cette maison, c'est de garantir le niveau pour 300 spectacles, pour tous les spectacles. Et ça, chaque direction doit se poser là, de nouveau, comment garantir, en choisissant les titres, les répétitions, les chefs invités, les chanteurs qui ont chanté le rôle ou peut-être pas chanté le rôle. Ça, c'est des choses où il faut vraiment bien... Ça, c'est mon travail là-bas, de bien choisir pour que on puisse garantir un quotidien au plus haut niveau que possible. Et le projet pour la prochaine saison, c'est de présenter les grands piliers du répertoire en vraie nouvelle production, c'est-à-dire évidemment le Don Giovanni pour un nouveau cycle d'Aponte avec Barry Kosky qui s'occupe de tous les trois d'Aponte. Il y aura un nouveau Tristan mis en scène par Calixto Bieto. Il y a un nouveau Wozzeck mis en scène de Simon Stone. Il y a un nouveau Barbier de Séville et aussi pour le cycle Monteverdi dont on a commencé déjà avec la Incoronazione di Poppea, un nouveau Orfeo.
Est-ce que dans les saisons prochaines vous pourriez mettre un peu plus Musique française à l'Opéra de Vienne, c'est quelque chose d'envisageable?
Absolument, mais il faut pas oublier que la musique française était beaucoup donnée par Dominique Meyer, heureusement. Alors, on a eu un nouveau Sanson, un nouveau Péléas. Nous, on a fait un nouveau Faust maintenant, cette saison. Et bien sûr, la musique française, c'est importante. Mais dans les grands sujets qui viennent pour les années prochaines, il y a d'autres idées liées aux années symboliques qui vont venir.
Ah, ça peut donner quelques idées.
Exactement.
On vous écoute dans un peu de musique française, un extrait de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel avec l'orchestre de l'Opéra de Paris. La danse guerrière de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, c'est son nom exact, dirigé par Philippe Jordan, notre invité ce matin, à quelques jours, à 8 jours du concert d'adieu, ici, à Bastille. Adieu à l'orchestre, adieu au public. Est-ce que toutes ces années avec l'orchestre, Philippe Jordan, même si vous avez votre bagage d'avant, vous êtes suisse, et votre père, dont on parlait tout à l'heure, était un immense chef de musique française. Est-ce que ça vous a quand même fait changer votre façon d'appréhender cette musique-là?
Absolument. C'est la façon de le sentir, de travailler ensemble, les sonorités qu'il donne aux musiciens. Évidemment, j'étais très influencé déjà par mon père qui était un grand spécialiste pour la musique française. C'est aussi une raison pourquoi très longtemps j'osais pas toucher, c'est clair. Là, j'étais à la place de le faire et par exemple mon premier Pelléas de faire ici avec cet orchestre, c'est il y avait juste des sonorités qui étaient là dont je pouvais me baigner hein, littéralement et aussi de former qui ce qui était là c'était je crois la musique française de jouer un Pelléas à ce niveau c'est on trouve nulle part que avec cet orchestre c'est juste fabuleux je me suis régalé à chaque fois.
Il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de cette interview, Philippe Jourdan, c'est celui de Gustavo Dudamel, votre successeur. L'orchestre est-il en de bonnes mains?
Absolument, oui, je suis très très content, enfin, ça a duré très très longtemps, pour que on le savait déjà depuis longtemps, mais je suis très très heureux de savoir cet orchestre, cette belle maison, dans des si bonnes mains, qu'ils ont déjà rencontré pendant la Bohème. C'était une rencontre heureuse aussi avec le public. Je crois que c'est une chance extraordinaire pour tous les côtés, je crois. Et je suis vraiment là, soulagé quelque part, de savoir que je peux partir et que tout est réglé dans les meilleures conditions.
Il y a eu ou il y aura un passage de témoin où vous êtes téléphoné. Peut-être que vous l'avez même un peu aidé pour cette candidature.
Je l'ai bien sûr proposé. C'était une évidence après la Bohème. Tout de suite quand Alexandre Neff était nommé, on s'est appelé et on a discuté plusieurs noms. J'ai proposé, je crois, 3 ou 4 noms, mais évidemment lui, il était un des candidats où c'était absolument clair et Alexandre Neff a fait son choix qui est très très bien.
Merci beaucoup, Philippe Jourdan. Le concert d'adieu donc au public, à l'orchestre et aux auditeurs de France Musique le 2 juillet dans 8 jours. Concert d'adieu ou ce n'est qu'un au revoir, comme dit la chanson?
J'espère bien. C'est à suivre. Je crois, au bout de 12 ans et d'une présence si forte, je crois il faut donner un peu l'espace et surtout aussi pour mon successeur, il faut avoir sa place, il faut donner la place. Mais après, bien sûr, j'ai un lien avec cette ville, j'ai un lien avec ce public et sûrement avec cette maison, mais il faut donner un peu de temps.
Vous pourriez diriger un autre orchestre de Paris, l'Orchestre de Paris, un orchestre de Radio France?
Mais bien sûr, et on discute déjà et je sais pas lequel sera le premier, mais je suis plein de curiosité pour des nouvelles rencontres.
Vous n'avez pas peur des jalousies de vos musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris?
Non, parce que notre lien est trop fort. Là, franchement, ça va pas se casser.
Rendez-vous à Bayreuth, rendez-vous à Vienne, bien sûr, et rendez-vous ici à l'Opéra Bastille dans 8 jours, la Fausse Symphonie et Parsifal, l'acte 3. Merci beaucoup.
Grand merci.
Parsifal que vous avez donné en avril sans public avec Jonas Kaufmann. On se quitte avec votre nouvelle maison, votre nouvel orchestre. C'est toujours disponible sur Arte Concert. Holder
Knabe. C'est ça, les fifleurs. Justement, bravo.
Voilà, les filles fleurs, extrait de Parsifal de Richard Wagner, la voix de Yonah Kaufmann, le chœur, l'orchestre de l'Opéra de Vienne, dirigé par notre invité ce matin, Philippe Jordan, un concert enregistré en avril par Arte Concert, qu'on peut toujours revoir sur le site de nos amis d'Arte. Au générique de Musique Matin, aujourd'hui, Sofiane Aktib, U2, Diego Aklopès, Marion Guillemet, Margot Müller, Lara Castiglione et Taïsia Froidure. Demain, notre invité sera Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille. Elle nous parlera de la prochaine saison, de sa maison lyrique, mais aussi de sa mission nationale confiée par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur les arts lyriques en France. Je n'oublie pas la réponse à la question d'il y a une heure. Nous écoutions cette air avec la mandoline de Don Giovanni, un air qui a été utilisé pour une publicité pour des pâtes, dans les années 90, c'est avec Gérard Depardieu. Peut-être que Rodolphe Bruno Boulmier et Émilie Munera s'en souviennent, mais non, ils sont trop jeunes. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Les années 90, non. Quand même. Ouais. Ça va, on était un peu gros. Bonne fête, Jean-Baptiste.
Oh, merci. Merci,
Émilie. C'était la Saint-Jean-Baptiste dans mon calendrier.
Et oui, c'est le jour plaisir. Des feux de la Saint-Jean.
Oh là là.
Mais il va pleuvoir un peu.
Ça va durer quelques jours. Bon. On va écouter de grands orchestres, nous aussi, on va continuer avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou le Philharmonia Orchestra, les derniers disques de ces deux grandes formations.
Il y a du hautbois aussi au programme, j'ai vu.
Ah, mais c'était pour votre fête,
voilà.
Pas eu le temps de le dire.
Quelle jolie attention.
Absolument, en plus, un musicien que vous avez eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, au mois d'avril, Olivier.
Et qui est formidable,
oui.
D'un grand orchestre aussi. Allez, à demain.
Solo du LSO,
à demain.